Shalom, Erev Yom Lekulam. Je vais mettre debout parce que je ne vois pas les gens. Ça va changer un peu. Donc, Erev Tov. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, notre sujet sera la Shekhina. La Shekhina, qui n'est pas le nom de quelque chose, mais un verbe. De la même manière qu'il y a Shira, Negina, il y a Shekhina. C'est-à-dire une action de l'infini vers le fini. L'action de résider, en fait, de devenir voisin de la création. En hébreu, le mot « chaker », qui veut dire « voisin », eh bien, « Shekhina », c'est la voisine. Pourquoi au féminin? Tout simplement, c'est parce que c'est la partie féminine de chaque degré qui, elle, se dévoile. Le masculin étant le potentiel, et le féminin étant le manifesté. Par exemple, je pense masculin, mais je parle par un élément féminin. Donc chaque révélation dans ce monde, obligatoirement, est une révélation qui vient de la partie féminine de la chose. Donc, chez Akadosh Baruch Hu, c'est une unité parfaite. Mais, par rapport à nous, eh bien, c'est le côté féminin, entre guillemets, de Dieu, que nous recevons. Et ce côté féminin, c'est-à-dire son dévoilement, c'est ce dévoilement qui descend et qui apparaît dans notre monde, sous différentes facettes. La Torah nous explique que ce monde est fabriqué et créé, a été façonné sur trois niveaux. Ces trois niveaux forment un triangle. Le judaïsme est un triangle. C'est le secret du triangle. D'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Shabbat, nous dit que nous sommes un triangle. Am telitaï, un peuple triangulaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que tout ce que ce monde donne est fixé sur trois niveaux. Il y a, bien entendu, le temps, il y a l'espace, et il y a la volonté, l'être. Dans le langage de la Kabbalah, ce sont trois lettres. Le Ain, qui veut dire Olam, c'est l'espace. Il y a le Shin, qui veut dire le temps, Shana. Et il y a le Nun, qui veut dire Nefesh, l'être. En hébreu, l'être ne veut pas dire seulement une existence, mais celui qui veut. Car la Torah, lorsqu'elle dit « Est-ce que tu veux quelque chose ?», elle prononce le mot Nefesh. Ha'im yesh et nafshecha. On ne dit pas dans le langage de la Torah atarotse. Ça n'existe pas. Ha'im yesh et nafshecha. Est-ce que ton être est dans ce degré? Autrement dit, nous sommes en réalité des ustensiles de réception et de vouloir. C'est comme ça qu'on peut mesurer un homme. Selon ce qu'il veut, je peux savoir ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs grâce à ce que je veux que je cours. Puisque je reviens au terme de raton, qui veut dire volonté, bien c'est la racine du mot la route, courir. Donc ce qui te fait courir dans la vie, c'est ce que tu veux vraiment. Ata ras biglal sheyesh lecha raton. Tu cours parce que tu veux quelque chose. Et quand tu cours vers quelque chose, tu deviens toi-même canal de la chose si tu vis la chose intensément. Donc le mot raton devient synonyme. Ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que tu deviens canal de ce que tu veux faire dans ce monde. Je reviens. Notre monde, donc, est un triangle. Ce triangle est Olam, Shana et Nefesh. Les initiales de ce que je viens de dire, c'est Ashan. Ashan qui, dans le langage courant, veut dire la fumée. Mais en réalité, à chaque fois que vous allez rencontrer ce nom dans la Torah, par exemple, Vehar Sinai, Ashan Kulo, le mont Sinaï était tout en fumée. Ça ne veut pas dire que le mont Sinaï était en fumée seulement, Ça veut dire que, à ce moment-là, il y a eu un lien entre un espace, un temps, et des êtres. Donc le mot « Ashan » Olam, Shana et Nefesh. Donc à chaque fois que quelque chose doit se développer dans notre monde, obligatoirement il faut le développer sur ces trois niveaux simultanément. S'il vous manque un niveau, il y a un problème. Et c'est d'ailleurs inversement le mot Ashan, Onesh, une punition. La punition, c'est quand tu n'es pas au bon moment, au bon endroit et la bonne personne. C'est alors que la guérison de l'être, et l'être suprême, c'est celui qui, au bon moment, avec les bonnes personnes, la bonne personne, est dans le lieu qui correspond à ce qu'il doit être. Comprenez que dès que nous développons un sujet quelconque dans le judaïsme, il faut que ce sujet soit toujours sur ces trois niveaux. Je subdivise ce que je viens de dire. Je prends chaque élément séparément, et lui aussi est subdivisé en trois parties. C'est-à-dire que le temps lui-même est triangulaire. Et c'est pour ça que nous avons dans le temps Shacharit, Mincha et Arvit. Vous avez trois niveaux dans le temps. Ou Shabbat, Seouda Rishona, Seouda Shnia, Seouda Shlishi. Trois repas, obligatoires. Pourquoi ? Parce que si tu ne réalises pas tes trois repas, tu es boiteux d'un degré, au niveau temporel. Alors, au niveau de Shacharit, Mincha, Arvit, si je prends les initiales, ça fait Shema. Le Shema Israël, c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Si tu observes le Shacharit, c'est-à-dire le début de quelque chose, car Shachar veut dire l'aube, qui était noir au départ, Shachor, et qui devient Shachar. C'est-à-dire le noir devient lumière. Mincha, qui est en réalité une offrande, mais qui en même temps machané, c'est-à-dire tu es dans un moment de guerre, tu es en train de travailler et tu dois t'arrêter pour t'occuper de quelque chose qui est sublime. Et arvit, erev, c'est un mélange. Les arev, mais orav, il y a un mélange, c'est-à-dire c'est le mélange d'un degré qui passe à un autre degré. Ces trois degrés forment le mot schéma. C'est-à-dire, je dois respecter ces trois niveaux. Ça, c'est au niveau temporel. Au niveau de l'être humain est composé toujours de trois directions. Et c'est pour ça que notre nom, c'est trois lettres. Et pas plus. Adam. Adam, ce qui veut dire en réalité trois niveaux. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Yamin Smol, Vemta, c'est-à-dire la droite, la gauche et la centralité. C'est ce qu'on appelle un équilibre. Et pour être équilibré, il faut ces trois niveaux obligatoirement. Au niveau des sphères, des sephirot, ça s'appelle Chesed, Gvura et Tiferet. D'ailleurs, toutes les sphirot, les dix sphères, ne sont que des triangles. Tu as Keter, Chorma et Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Nesar, Hod, Yesod, c'est toujours des triangles. 3, 3, 3. Des triangles inversés qui se reflètent toujours un degré plus bas. Ça, c'est au niveau de l'être. Donc l'être équilibré, c'est un être triangulaire. Chaque fois que je développe quelque chose, je dois le développer sur trois niveaux pour être équilibré dans ma vie. Donc je dois tout le temps savoir combien donner, ça c'est le côté droit, combien mesurer ce que je donne, ça c'est le côté gauche, et si je sais faire le lien entre les deux, j'ai une partie centrale qui s'appelle Tiferet, les lettres de thérapie, c'est-à-dire la thérapie. Donc la Tiferet, c'est la thérapie de l'être, c'est-à-dire l'équilibre entre toutes les données de mon corps. D'ailleurs, toute maladie est un déséquilibre au niveau de l'ensemble. Et toute guérison est un rééquilibrage de l'ensemble. Ça, c'est au niveau de l'être. Donc on a vu au niveau du temps, au niveau de l'être. Maintenant, au niveau de l'espace. Comment est-ce que ce monde est triangulaire au niveau de l'espace? D'après vous? Il y a trois dimensions. Le monde dans lequel nous sommes est un monde tridimensionnel. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir développer aussi pour avoir un volume trois dimensions. Si vous avez les choses en 2D, bien, vous n'avez qu'un une longueur et une hauteur. Pour avoir un 3D, il va falloir donner une profondeur à votre vie. Comme l'axe des X, l'axe des Y et un point dans l'espace. Vous vous rappelez, en mathématiques. Donc, en réalité, nous sommes dans une fabrication qui, elle aussi, est triangulaire. Donc, nous voici dans une subdivision du 3, encore un 3. Et si je continuais, bien, ça continue encore. Mais je ne vais pas le faire juste au niveau du corps. C'est-à-dire que même le corps humain, toujours est fabriqué en 3 niveaux. C'est-à-dire que je prends mon bras, il y a un degré, un deuxième degré et un troisième degré. Je suis encore un triangle, sous-triangle, sous-triangle. Et à l'intérieur de nos cellules, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce monde est un monde triangulaire et le représentant du triangle de ce monde, c'est Am Israël, le peuple d'Israël. Donc nous sommes Am Telitaï. Traduction en araméen, le peuple du triangle. Ce que nous faisons dans ce monde doit avoir toujours la couleur du triangle. On ne demandera jamais à un professeur de géométrie de devenir un triangle, mais nous, on nous demande de vivre comme un triangle. Donc développe toujours tout ce que tu fais d'une manière triangulaire. Tu veux être un bon, une bonne femme d'Israël, un bon homme d'Israël, eh bien, respecte les 3 dimensions de ta vie. Vis au bon endroit, sur ta terre, sois la bonne personne, c'est-à-dire retrouve ton identité, Israël, et vis dans le temps qui est relatif à tout ce que tu es en train de vivre. Je peux vous dire juste que vous avez choisi le bon moment, dans le bon espace, et vous êtes les bonnes personnes. Baruch HaShem. Il y a des gens encore qui sont boiteux d'un, de deux ou de ces 3 degrés que Dieu préserve. Et donc ils sont en réalité perdus. Ils sont perdus dans un monde qui n'est pas réel, dans un espace qui n'en est pas un, dans un temps qui n'en est pas un et dans une identité perdue, Chas v'Shalom. Et ça, c'est un problème très grave. Donc, il faut bien remettre les structures en place.
Si j'ai bien compris, pas seulement les trois dimensions doivent être présentes, il faut pas qu'il y ait, il faut qu'il y ait une certaine hat-ama aussi.
D'accord. Il y a une hat-ama entre les 3 degrés. Et donc, à chaque fois que nous développons quelque chose, c'est toujours selon les 3 degrés. Maintenant, je suis en train de développer un sujet, je suis obligé de toucher ces 3 points. Sinon, mon cours est manquant. Même quand je veux développer un sujet, je ne peux pas parler d'un sujet sans évoquer ces 3 dimensions.
Sinon, il ne faut pas que tu aies un conflit, c'est ça ?
Par contre, exactement.
Mais enfin, c'est condamné. C'est-à-dire, de toute façon, tu vas le traiter ces points. C'est pas quelque chose de... Tu dis, ah, il faut faire ça. C'est la construction.
Pas forcément. Tu peux aller dans des cours où on va développer un sujet qui ne parle que du sujet en question. C'est-à-dire, on va te dire Shabbat, et on va te donner pendant une heure un cours sur le Shabbat comme étant un domaine du temps. Alors que moi, je suis en train de te dire que Shabbat est aussi un espace, et Shabbat est aussi un homme.
Et la Tfila.
D'accord. La Tfila, c'est pareil. La Tfila, elle est partagée en 3 parties. Il y a les korbanot, il y a de Baruch Atah Hashem le Shema, et il y a la Amida. 3 degrés. Tout le temps. Vous allez retrouver ce triangle partout.
Le Shabbat, on a qu'un degré, puisque Moussaf.
Alors, encore une fois, Moussaf, on l'appelle Moussaf parce que c'est une tosefet. C'est pas quelque chose qui fait partie du degré. C'est pour ça qu'on l'appelle Moussaf. C'est bizarre d'ailleurs d'appeler un rajout. Traduction réelle. Donc il faut bien comprendre quelle est sa place.
Et dans le Makor Telitaï, c'était quoi?
Alors dans le Makor Telitaï, c'est que la Torah que nous avons reçue, elle aussi, elle est triangulaire. Puisqu'il y a Torah, Nevi'im, Ktuvim, Tanakh. Elle a été donnée le 3e mois. On est sorti d'Égypte Nissan, Iyar, Sivan. Elle a été donnée par le 3e enfant. Moshe est après Myriam et Aaron. Donc c'est le 3e fils. Elle a été donnée le 3e jour. Bayeri Bayom Ashlishi. Préparez-vous. Elle a été donnée, je peux continuer jusqu'à demain matin, vous voulez? C'est fatigant. Mais vous avez compris qu'en réalité, la Torah est comme ça, et le peuple est comme ça. Kohanim, Lévi'im et Israël. C'est-à-dire, nous sommes un ustensile, Keli, Kohen, Lévi, Israël est un Keli, c'est-à-dire l'ustensile nécessaire et suffisant pour recevoir la lumière divine. Donc, la lumière divine ne peut pas pénétrer dans notre monde si ce n'est que par un triangle. Et le triangle, par excellence, Ce sont trois niveaux. D'une manière globale, on va les appeler Am Yisrael, au niveau de l'être humain, le peuple d'Israël, au niveau du temps, c'est le Shabbat, et au niveau de l'espace, c'est le temple et la terre d'Israël. D'accord? Donc, moralité, nous sommes encore une fois face à ces trois degrés.
C'est inévitable.
Il n'y a que sur ces trois degrés que l'éternel peut se dévoiler. C'est ça sa règle. Il a créé une règle dont l'infini se dévoile dans le fini par ces trois niveaux. C'est tout. Bien fait. Alors ça, c'est en réalité ce qui a été rapporté après. Si tu ne sais pas développer ces trois sujets, encore une fois, tu es boiteux. D'ailleurs, l'équilibre parfait dans ce monde est toujours sur trois. C'est pas sur quatre. Le quatrième degré, c'est juste une révélation. C'est comme si vous aviez en réalité Abraham, Yitzhak et Yaakov, trois degrés. Et la quatrième, c'est Rachel. C'est la femme qui développe les trois. Mais faites attention, nous avons que trois patriarches. Et la Gemara fait très attention de se dire trois et non pas quatre et non pas cinq et non pas six. Trois. Pourquoi? Justement pour préserver ce système, ce modèle de base.
Et les quatre mères?
C'est pour ça que je dis, les mères, ce sont les dévoilements. Donc la quatrième, le degré 4, c'est une porte de dévoilement. Comment on dit 4 en hébreu? Dalet. Dalet qui veut dire délet. Donc en réalité, c'est une porte de dévoilement. Mais il n'y a pas de mot pour ça, mais la patrie, et non pas seulement la matrice, j'invente des mots. Donc si on devait dire la patrie, elle c'est 3. La matrice, c'est 4, c'est-à-dire le dévoilement. Le quatrième degré est un dévoilement. Et si tu sais être le lien avec ce quatrième degré, eh bien, tu réussis ta vie.
Encore mieux.
Effect. Donc, il faut que tu sois toujours le frère du quatrième degré. Quatrième degré s'appelle Dalet. Voilà, les quatre doigts, c'est Dalet. Et ça, c'est en réalité le degré qui doit aboutir à ces trois degrés. Donc le Yud, l'idée première, qui donne à Dalet. Et vous avez le mot Yad. Yud, Dalet. Le mot Yad, c'est tout simplement un Yud et quatre doigts. Moralité, si tu sais préserver ton Yad, tu deviens le frère de la quatrième dimension qui est la femme. La femme est une quatrième dimension. Comment on dit être le frère de la quatrième dimension? Echad. Ach, Dalet. Echad, c'est le frère de Dalet. C'est-à-dire que Shema, Israël, Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad. Et les kabbalistes, quand ils disent Echad, ne voient pas un mot Echad qui veut dire un. Ils voient Ach, Shel Dalet, le frère de la quatrième dimension. Or, le mot frère en hébreu ne veut pas dire frère et sœur, mais veut dire assemblée. En hébreu, le verbe le'echot, ichoui, achva, c'est-à-dire faire le lien. Quand je prends deux morceaux de tissu et je dois les rassembler, ça s'appelle le'echot. C'est pas les chaber ou les tarer. Le'echot, c'est un verbe que vous ne connaissez pas beaucoup. Mais en réalité, apprenez-le. Donc les echot, c'est rassembler au niveau ach-achot. D'accord? Et c'est de là qu'est venue l'expression l'âme-sœur. Achot neshama, c'est-à-dire une neshama qui est comme ma sœur, c'est-à-dire qui en réalité me dévoile. Donc la meilleure femme pour un homme doit ressembler en fait à une sœur potentielle. C'est-à-dire une qui est comme lui au niveau féminin. Une qui va être sa prolongation. Je commence le sujet. Le monde dans lequel nous sommes, lui aussi, a été fabriqué, créé sur trois dimensions. Puisque la Gemara nous dit, et elle a choisi juste cette séparation, cette structure-là, trois degrés dans le temps. Vous êtes d'accord? La Gemara nous dit qu'il y a 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de jour messianique. Pourquoi elle n'a pas dit 1-1-1-1-1 jusqu'à 6? Non, 2-2-2, pour qu'il y ait encore une fois une structure triangulaire. Ça veut dire que je suis 2000 ans dans une structure de tohu-bohu, où tout est là, mais rien n'est en ordre. 2000 ans de Torah, c'est-à-dire de messages divins, et 2 millénaires, les derniers, où je prends ces 2 degrés, c'est-à-dire la Torah qui est la structure du monde, dans le Tohu-Bohu, et ça s'appelle les jours messianiques. Donc nous sommes en plein jour messianique, c'est-à-dire on remet de l'ordre dans ce monde. Et d'ailleurs, l'ordre en hébreu est obligatoirement, encore une fois, triangulaire. Donc il y a 3 lettres. C'est Seder. On ne peut pas avoir moins que ça, ni plus. Donc à chaque fois qu'on fait un réglage dans ce monde, ça doit, encore une fois, toucher 3 lettres. Et donc à chaque fois qu'il y a une remise en ordre dans ce monde, ça s'appelle ou le Seder de Pessah, ou le Seder de Rosh Hashanah, ou le Seder de Tu Bishvat. À chaque fois, c'est un Seder. Vous comprenez maintenant pourquoi? Dis-lui que je suis pas là. Maintenant, dans la structure même de la création, ça se passe comme ça. Akadosh Baruch Hu dit le Midrash, Ra'a Olam Banoui, Vechare, Vebanoui, ou Meshuchlal. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, au départ, a une structure qui est entière, une entité. Cette structure se brise. Et quand elle se brise, c'est comme en chauffard, en combien la structure première se brise, en 3. C'est pour ça que vous avez après le tout du chauffard, tout, tout, tout. Pourquoi 3? Si je fais 4, c'est fini. Ça va plus. Et d'ailleurs même les il y en a combien? 9. C'est-à-dire que c'est encore une fois 3, 3, 3. Moralité, tout ce que vous voyez, je vais essayer de vous le prouver au fur et à mesure, vous voyez que c'est toujours pareil. D'ailleurs, l'équilibre en hébreu se dit « izun »,« ozen », c'est l'oreille. 3 lettres. Il ne peut pas y avoir « o, r, e, i, 2 l, e », ça ne veut rien dire. Okay? « Ozen », c'est 3, parce que le centre de l'équilibre se trouve dans l'oreille. D'accord? Et si tu es dans le centre de l'équilibre, tu te sens bien. Donc « ozen », en valeur numérique, c'est 58. C'est bizarre. C'est la même valeur numérique que le mot « noir ». C'est-à-dire, tu es dans une stabilité. Noach lecha. Ve noach masachem. Quand tu trouves la grâce, quand tu trouves l'équilibre, eh bien, en réalité, tu as trouvé ton équilibre au niveau de Ozen. Et d'ailleurs, l'horizontal, en hébreu, se dit d'une oreille à une autre, puisque c'est horizontal. Donc, ça s'appelle Meuzan. C'est tout. Mi Ozen le Ozen. Donc, l'horizontal est clair. Tout est clair en hébreu. L'ulpan, c'est très facile. Il faut juste un prof qui vous donne les racines des choses, les shorachim, et les shorachim c'est toujours 3, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire, parce que ce n'est pas ordinaire. C'est ça? Maintenant, tout ce système-là, il se dévoile donc dans cette entité, dans cette brisure, et dans cette reconstruction. Haya akadosh baruch hu bone olamot ou machriva. C'est-à-dire que si l'ordre de ce monde, c'est une construction première, une brisure et une reconstruction, c'est qu'en réalité, le monde avance de cette manière. Donc, ne vous inquiétez pas si à chaque fois que vous êtes dans une étape de construction, qu'il y ait une brisure, qu'on vous casse les pieds, que ça se passe difficilement. C'est parce que ça fait partie de la structure. Quand tu atteins un degré, alors tu vois le degré dans ton entité, première étape, après, ça se casse la figure en 3 degrés, et après, ça reconstruit d'une manière beaucoup plus forte que ça ne l'était au départ. Ça, c'est la structure de la vie. Donc, nous sommes obligés de tomber pour nous relever. Ça fait partie du mouvement. Et c'est comme ça qu'on marche. C'est comme ça que le monde avance. Donc, le peuple d'Israël, Sheva, Ipol, Tzadik, Vekam. Le Tzadik est obligé de tomber pour se relever. D'ailleurs, El Adam Omed al Divrei Torah, El Imken Nichshal Bahem. Tu ne peux pas comprendre un secret dans la Torah si tu ne t'es pas cassé la figure, pour ne pas dire autre chose, dans ce même sujet. C'est-à-dire, tu es obligé de te casser les dents dans le sujet pour pouvoir l'appréhender et l'apprécier. S'il n'y a pas eu une brisure intermédiaire, tu n'arriveras à rien du tout. Donc, il y a toujours un système qui est bien clair.
Ça dit aussi. Quand il s'agit de Dieu, il y a aussi une brisure. Ça, c'est pas plus bien.
Alors, quand Akadosh Baruch Hu crée un monde, il le crée selon la structure du monde, pas selon sa structure à lui. Parce que selon sa structure à lui, il a besoin de rien du tout. Donc, s'il crée un monde, il est obligé de le créer, entre guillemets, à la hauteur de ceux qui vont être là. Et comme la hauteur de ceux qui sont là, c'est le triangle, donc il va créer un système avec des brisures. Parce que pour passer de l'infini au fini, il faut quand même casser quelque chose. C'est pas évident. Akadosh Baruch Hu se contracte pour descendre dans notre monde. Il fait un effort extraordinaire. Et là, on arrive à notre sujet d'aujourd'hui. La Shekhina. Comment est-ce que l'infini pénètre le monde fini, la structure mesurée de notre temps, de notre vie, de notre espace? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de construire un système qui s'appelle le Mishkan, un tabernacle, pour révéler son infinité dans ce système. Alors, si j'avais un tableau, je vous aurais écrit le mot Mishkan. Mishkan veut dire, donc, l'élément, le tabernacle, qui va être en fait la structure avec laquelle ce monde va être capable de recevoir la lumière divine. Alors, on va le faire oralement. Mishkan, ça s'écrit Mem, Shin, Kaf, Nun. D'accord ? Mishkan, quatre lettres. C'est-à-dire que pour révéler, j'ai dit tout à l'heure, il faut un élément féminin, donc quatre. Donc, le mot Mishkan contient en lui les 4 degrés, car c'est la révélation. Révélation égale 4. Délai. C'est une porte. Quel est le même de Mishkan? Eh bien, la première structure. Il faut que Dieu règne sur ce monde. Donc, le même, c'est Malchut, la royauté. Malchut. C'est-à-dire, il faut que je me place un roi. Le summum de ce royaume, c'est Mashiach. D'accord? Mais ce roi, il est en même temps juge. Donc il est Shin de Mishkan, Shofet. C'est-à-dire c'est un juge. Il est obligé d'avoir une structure pour pouvoir apporter les éléments d'en haut en bas. Regardez l'extraordinaire degré de la Torah. Si Chas v'Shalom, une personne, touche son voisin avec leurs deux effondrés pas gauche dans la voiture, les pare-chocs, j'ai oublié les mots. Quels deux pare-chocs se touchent? Alors, dans une structure des nations du monde, on va gérer ça, je ne sais pas comment. Selon la Torah, on se dit non, tu dois apporter un livre qui s'appelle Crochet de Mishpat. C'est-à-dire, tu sors un livre qui est en réalité divin pour régler les problèmes que j'ai avec toi. Ça veut dire, je fais descendre Dieu dans chaque élément de ma vie, même quand j'ai touché moi, le pare-choc de mon voisin. Extraordinaire. Donc Dieu danse partout, ça s'est chauffé. Donc même Malchut, Shin, chauffé. Chas, Kohen. Nous sommes des Kohanim du monde. Qu'est-ce que c'est que le Kohen? Pourquoi on l'appelle Kohen? Vous croyez que c'est un nom de famille? Pas du tout. C'est une fonction. Si, par exemple, je travaille à la Knesset, on dit Ani Mechahen Bakneset. C'est-à-dire que je viens le Kohen. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Kohen? Eh bien, il est en réalité certificateur. Ça se dit en français? C'est-à-dire, c'est un homme qui certifie les choses. Comment on dit oui en hébreu? Ou bien ken, ou bien hen. C'est aussi en hébreu. D'ailleurs, faire comme ça en hébreu, ça se dit le hanhen. Ani me hanhen. D'accord? Donc, il y a une kedusha de faire réaliser ce qui est en haut, en bas. Donc, le kohen, c'est celui qui dit oui à ce qu'il y a en haut. Donc il est responsable de traduire les valeurs d'en haut en bas. D'ailleurs, dans le corps humain, nous avons le même degré. Comment ça s'appelle le pouce? Bohen. Qu'est-ce que ça veut dire bohen? Je découpe les mots. En lui, il y a le oui. C'est-à-dire, quand tu veux dire oui à quelqu'un, tu fais comme ça. C'est bizarre, non? Donc le bohen. Donc le kohen et le bohen. Vous pensez à tout ça? C'est très important. Maintenant, au niveau de ce degré, j'ai fini le Kohen. Donc le Kohen, sa fonction, c'est d'apporter les valeurs de l'esprit dans la matière. C'est à ça que sert le Kohen. Qui est le Kohen de l'humanité? Israël. Nous sommes appelés Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Donc nous sommes les prêtres des nations. Donc le jour où on reconstruira le troisième temple, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans le status quo, comme tout le monde veut nous le faire, c'est n'importe quoi. On est là pour construire le troisième temple, et nous serons tous les Kohanim. Et ceux qui étaient Kohen parce qu'ils étaient les fils de Aaron et de toute la Keuna, et ceux parmi vous qui sont les hommes, les premiers-nés de leur famille. Moi, je suis le premier-né chez moi, je vais être Kohen au Beth Amikdash. Comme ça que ça marche, Bezrat Hashem. Donc, moralité, tous ceux qui sont premiers-nés vont servir au Beth Amikdash, ils vont faire les Milouim. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Milouim pour l'armée, c'est les Milouim, les remplissages. Kohen. Que nous reste-t-il? La lettre Nun, Navi, la prophétie. Donc le mot Mishkan, Malchut, Shofet, Kohen, Navi. Navi, la prophétie. Qu'est-ce que c'est Navi? Faire venir les valeurs d'en haut sans mentir, sans tricher. Donc en hébreu, Navi. Faisons venir.
Anticipé.
Et Navi.
Anticipé.
C'est même pas anticipé. C'est une Niv. Niv. C'est les lèvres. Niv svatai. Les lèvres sont ce qu'on appelle Niv en hébreu. Et donc, quand je dis des Nivim, je dis des strophes, ou des, comment on dit en français, je ne me rappelle plus dans les chansons. Des vers, des strophes, c'est ça? Vous avez compris. Maintenant, le Niv, c'est ça. Donc, le Navi, c'est quoi? C'est celui qui voit la structure entière de l'univers, et qui sait exactement comment se placent les choses. C'est pas celui qui devine ce qui va se passer demain. C'est pas ça, un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un comme un scientifique qui sait qu'en mélangeant ce produit avec celui-là, il va y avoir une réaction chimique. Eh bien, le prophète voit la même chose au niveau cosmique. Donc, vous avez ici une structure qui s'appelle Mishkan, qu'en français, c'est traduit comme étant le tabernacle. C'est-à-dire, c'est un tabernacle, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais bon. En hébreu, vous venez de comprendre ce que ça veut dire. C'est une structure humaine dans le temps, dans l'espace et dans l'être. Et si on monte cette structure, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu l'ordre dans la paracha de Terouma. Qu'est-ce que c'est que le mot Terouma? C'est levé. La Roum. Rouma ma'alot. Donc, Terouma, élévation. Donc tu élèves le monde à un autre niveau. Pourquoi? Mais tout simplement parce que tu as construit dans ce monde une dimension qui vient de l'infini. Et si tu as une dimension de l'infini dans un monde fini, c'est une ambassade de Dieu dans ce monde. Donc le Mishkan, le tabernacle, c'est une ambassade de Dieu dans ce monde. Extraordinaire. Vous avez l'habitude d'aller dans l'ambassade de France, l'Aïssab. Tiens, parce qu'on arabe. Tiens, vous avez l'habitude d'aller dans des ambassades américaines, machin. Bientôt, il va y avoir une ambassade de Dieu. C'est ça le Beth Amikdash. Maintenant, à quoi ça me sert d'avoir l'ambassade de Dieu dans ce monde? Parce qu'il faut un étalon. Si je veux savoir si mes mesures, si mes vertus sont bonnes, par rapport à quoi il faut que j'ai une structure fixe, eh bien le Mishkan ou le Beth Amikdash, c'est la structure étalon qui va me donner à moi ma véritable structure. Plus je suis proche des valeurs de ce Mishkan, plus je suis un homme fidèle aux valeurs de l'infini. Plus je suis éloigné dans ma tête, dans ma structure intérieure de ce que le Mishkan représente, plus je m'éloigne des valeurs de Dieu. C'est une référence de base. C'est le modèle avec lequel, par rapport auquel, ma vie doit évoluer. Vous comprenez? C'est énorme ce qu'on est en train de dire là.
Alors le Kohen, il est là pour confirmer, n'est-ce pas?
Bien fait. Moi j'ai dit certifié, tu as dit confirmé, c'est la même chose.
Est-ce que confirmé,
bien fait.
Le spirituel avec...
Non, j'ai pas dit le spirituel. Ça, c'est, tu viens d'inventer un mot.
Alors,
parce que tu crois que Dieu est spirituel.
Oui.
Non. Le judaïsme n'est pas une religion. Donc on ne considère pas Dieu comme étant spirituel. Il est le tout. Si tu dis qu'il est spirituel, c'est comme si tu disais qu'il n'est pas matériel. Moi, je ne dis pas ça, Chas v'Shalom. Parce que là, tu es en train de rentrer dans une structure de Avodah Zara où tu disais, il y a le Dieu de la spiritualité et il y a un autre Dieu, le Dieu de la matière. Chas v'Shalom. Faites très attention à ça. Ne dites jamais que Dieu est spirituel. Ne dites jamais que la Torah est spirituelle. Ne parlez jamais de spiritualité. Attention, c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est une ardoute kolele. Elle gère le tout. Comme l'esprit, comme la matière. La même force qui a créé l'esprit. l'esprit a créé la matière. Vous croyez que votre corps est moins que votre neshama? C'est une faute.
C'est équivalent aussi.
Exactement. C'est la même création à d'autres degrés de dévoilement. C'est tout. Donc il faut considérer le corps et lui donner son importance. Sinon, ta neshama ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, à chaque fois que tu veux jouer à l'esprit sans matière, eh bien ton corps va te dire, moi je suis malade, je ne veux plus bouger. Alors maintenant, va au cours. Il n'y a pas de cours. Pourquoi tu veux sortir, tu vas vomir maintenant.
Et la mort?
La mort, c'est pire encore. C'est-à-dire que la neshama et le corps se sont séparés. Donc en réalité, voilà la plus grande des malédictions. C'est la mort. C'est la séparation totale de l'esprit et de la matière. Alors que la vie, c'est la structure qui englobe le tout. Moralité, nous sommes tout le temps dans un lien, dans un voyage non-stop entre l'esprit et la matière. Alors, maintenant, il faut évoluer. Tout doucement. Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il crée un monde dans lequel il va vouloir se dévoiler. Le Midrash nous raconte, par exemple, une histoire qu'au début de la création, Dieu lui-même a créé. Par quel endroit a commencé la création, nous disent les kabbalistes, par l'endroit où se trouve le Beth Amikdash, à Jérusalem. C'est là-bas que la première matière a eu lieu. Maintenant, dans ce lieu-là, Dieu s'est construit une soukha. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? Et il a dit, il est rentré dans la soukha, et il a dit, Yehi Ratson Milefanai. Parce que c'est lui. Non, que ce soit agréable à ma volonté, je suis Dieu. Que dans le futur, dans ce lieu, mes enfants construiront une maison. Pour moi. Autrement dit, le but même de la création, c'est ce que le Midrash vient nous enseigner, c'est que il y ait une maison pour Dieu sur terre. Et qui est construite par les enfants d'Israël. Donc nous sommes là pour construire une maison.
Une ambassade.
Comment on appelle cette ambassade? Baït. Or le mot baït peut s'écrire aussi, peut se lire aussi, bête. Vous êtes d'accord? Quand vous dites le mot bête, si vous voulez l'écrire en trois lettres, vous écrivez bête, yud et taf. Donc vous écrivez trois lettres pour en dire une. Vous êtes avec moi ou pas? Autrement dit, la lettre B, c'est aussi une maison. Vous êtes là avec moi?
Ouais.
Donc il y a une ouverture, regardez la lettre B, c'est trois murs et une ouverture. Donc c'est la maison. Donc c'est une maison pour l'infini béni soit-il. Or, cette maison-là, by, elle veut dire aussi deux. Puisque la valeur numérique de B, c'est deux. Alors que la valeur numérique de Aleph, c'est 1. Donc c'est comme si l'infini voulait rentrer dans la pluralité de ce monde. Donc le Aleph se cherche un Bet ou un Bait. C'est la même chose.
D'où tu sors l'Aleph?
Le Aleph, c'est un Kadosh Baruch Hu. On la compte pas. C'est pour ça que la Torah commence par Bet. Pourquoi elle commence pas par Aleph? Parce qu'on n'a pas le droit de compter le Aleph. Jamais tu trouveras une Gemara avec la page Aleph. Ça n'existe pas. Aucun livre en hébreu commence par la page 1. Ça n'existe pas. Et alors que tous les livres étrangers commencent par la page 1, c'est normal. Non, t'as déjà commencé par prendre la place de l'infini. Donc tout ton livre, c'est du bidon. Nous, on n'a pas le droit. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que si je ne compte pas Aleph, et je commence par Beth, comme j'ai dit que la structure est triangulaire, je dois prendre 3 lettres. Donc je prends le bête, le guillemet, le de la dalet. Mm-hmm. J'ai déjà obtenu le mot beged, qui veut dire un vêtement. Un vêtement pourquoi? Pour la première lettre. Or, la valeur numérique de ce vêtement, bête, c'est 2, guillemet, c'est 3, dalet, c'est 4. Donc 2 plus 3 plus 4 égale 9. 9, c'est la vérité. Alors que si je commençais par 1, 1 plus 2 plus 3 égale 6. Valeur numérique de Sheker, le mensonge. Donc, je commence à l'Evvekimel, mais je peux continuer jusqu'à la fin de l'alphabet, c'est pareil. Parce que j'ai commencé par 1, tout est erroné jusqu'au bout. Donc, je prends le premier triangle, je l'enlève. Il me reste maintenant Dalet, Hei, Vav. Dalet, c'est 4. Hei, c'est 5. 4 plus 5, 9. Vav, 6. 15. 5 et 1, 6. Encore une fois dans le mensonge. Jusqu'à la fin de l'alphabet, je suis dans le mensonge total.
Et c'est valable pour tous
les mots. Alors que si je commence par 2, eh bien 2 plus 3 plus 4 égale 9. 5 plus 6 plus 7 égale 9. 8 plus 9 plus 10 égale 9. Je suis toujours en la vérité. Donc laissez la place à Kadosh Baruch Hu dans votre vie, vous allez voir comme ça va bien. Si vous voulez tout prendre et ne pas lâcher prise, eh bien débrouillez-vous, c'est ce que dit Dieu à l'homme. Laisse Dieu rentrer dans ta vie et tu verras que tu réussiras dans tout. Laisse-lui la première place. Comment est-ce que je peux lui laisser la première place? Eh bien, j'ai dit tout à l'heure que je dois toujours avancer, évoluer dans 3 degrés. Alors on va dire par exemple le degré du temps. Tiens, je me lève le matin. Le Aleph de mon temps, c'est quoi? C'est de le remercier. Donc, au moment où j'ouvre les yeux, je n'ai pas le droit de me toucher, je n'ai pas le droit de bouger, je suis paralysé. Je dis Modé, Ani, Lefanecha. Écoutez bien, je dis même pas Ani, Modé. Je dis Modé, Ani. Et remercie, je. Pas je, remercie. Parce que si tu as mis le je avant remercier, c'est déjà que tu t'es mis en place. Tu as pris la place du A. Extraordinaire. Si vous dites donc Modé, Ani, Lefanecha, Melecha, Ilekayar, Shechezar, Tabinishmati, Bechemla, Rabba, Emunatecha, ta journée a commencé par une place pour le Aleph, dont toi tu es le Bet, ça peut marcher. Toute ta journée sera dans le Emet. Et ainsi de suite au niveau de l'être, et ainsi de suite au niveau de l'espace. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons dans ce monde, il faut lui laisser la place. Maintenant, je veux construire cet édifice. Ve'asu li mishkan, mikdash, ve'shachanti besocham. Je vous ai posé la question, comment est-ce que Dieu peut nous demander de lui créer un système fini pour résider à l'intérieur? Soit Kadosh Baruch Hu, il peut rentrer dans 50 mètres de long.
Ce concept dérange.
C'est un concept qui dérange. Bien. Alors, comment ça marche? Eh bien, il n'y a pas marqué, il faut juste faire attention au texte. Il n'y a pas marqué le Shachanti Betocho. Dieu n'a pas dit, construisez-moi une maison pour que je sois en elle. C'est juste un intermédiaire, un passage. Il y a une structure spéciale, spéciale Dieu, qui me permet à moi à l'infini. On ne sait pas, on ne comprend pas vraiment pourquoi, mais ça c'est déjà des cours à part entière. Pourquoi les mesures de chaque chose avaient ces mesures-là et pas d'autres? Et c'est à travers ces mesures que je passe, mais à une condition. Mais ex-kol ish shel deven olibo. Comment je peux construire cette maison? Comment je peux construire un édifice par lequel Dieu va passer, que Dieu va traverser? D'après vous, il faut que ceux qui donnent pour l'élaboration de cette chose, d'abord donnent 3 choses. Bizarre, encore le chiffre 3. Zahav, Kesef, Nechoshet. Zahav, Kesef, Nechoshet. Qu'est-ce que c'est Zahav? L'or. Bon, ça va, je m'en fiche, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en hébreu, il faut partager le mot de Zé, Hav. Zaha veut dire ça, c'est donne-moi. Donc, les gens qui veulent l'or, ce sont des gens qui veulent recevoir. Qu'est-ce que c'est? C'est qui souffle? Qu'est-ce que c'est qui souffle? Un désir de partager. Un inersaf. Donc, le qu'est-ce que c'est le désir de partager? Il est blanc. Le zahav, il a une racine rouge, l'or, donc c'est le désir de recevoir. Et Nechoshet, qui a la racine du mot Nachash, ou la racine du mot Choshet, qui est en réalité le messianisme. C'est la même valeur numérique. 358, c'est l'équilibre central entre l'or et l'argent. Donc je dois être dans ma vie de l'argent, de l'or et du cuivre. Donc un désir de partager, un désir de recevoir et une centralité. Voilà l'élaboration du temple. Je reviens au temple. Celui qui donne doit donner avec son cœur. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation de donner. Mais est-ce kol ish asherit deven ou libo? Si tu veux donner au temple, je veux que tu donnes avec ton cœur. Sinon, reste tranquille. Parce que chas v'shalom, si tu donnes quelque chose pour l'élaboration du temple et que tu l'as donné de force, eh bien, les 40 cm carrés de carrelage au temple que toi, tu as donné ton argent, quand quelqu'un se mettra debout dessus, il va être dans le temple et il va se sentir light up.
Il va se sentir
pas bien. Il faut s'habituer, je parle en français. À light up. C'est du français, non? Français d'aujourd'hui, de demain. Quoi. C'est-à-dire là, il se tord, là, il se tord. D'accord? Donc, il y a un problème. Moralité, si tu veux donner, donne avec cœur. Si tu ne donnes pas avec cœur, il y a un problème. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, nous dit, nous décrit le parterre du temple. Soho Rasouf Ahava Nibnot Yerushalayim. De quoi étaient faits les carrelages du temple? D'amour. Dites-moi où est-ce qu'on trouve des carrelages d'amour. Magnifique. Il était pavé d'amour de qui? Nibnot Yerushalayim, des enfants d'Israël qu'on appelle les filles de Jérusalem. Extraordinaire. C'est-à-dire, tu marches dans le temple et l'amour se remplit. C'est magnifique. Or, l'amour en hébreu veut dire un, puisque c'est la même valeur numérique. Ahava c'est Echad. Ahdale. C'est-à-dire l'unité parfaite. Donc, moralité, quand je marche dans le temple, je me remplis de l'identité de ce monde, c'est-à-dire de l'amour. De l'amour de l'infini, de l'amour de mon peuple, de l'amour de ma terre. Alors, vous me diriez-vous, mais ça y est, quoi, le temple, il n'est pas là, c'est fini. Non. Là, maintenant, je vais vous accrocher tous. Si vous donnez ce que vous donnez à Israël, c'est la même chose, c'est un petit peu plus grand. J'ai tout simplement élargi la chose. Avec votre cœur, vous allez marcher sur des pavés d'amour. Si vous faites tout ce que vous faites de force, avec des nerfs, avec de la colère, si vous êtes en colère après tout le monde ici, sans arrêt, sachez que vous préparez votre propre malédiction, Chas v'Shalom. Il faut faire très attention à ça. C'est ça le temple, nous sommes dans ce temple-là. Donc il faut faire très attention comment réagir à tout ce qui se passe ici.
Voilà.
C'est
pas
la Shonara, tout, pas seulement la Shonara.
C'est pas seulement de la colère.
C'est un manque d'amour, un manque de l'art.
Je vais aller plus loin, avec des motifs ultérieurs.
D'accord. Mais toi tu es extra large. Donc c'est tranquille. Toi tu dois être XXL. Parce que small, ça va pas en Israël, il y a un problème.
Ouais.
Merci. Bon, alors, il y a donc un problème de ce degré.
Ouais.
Et ça, c'est la générosité. Il faut être généreux. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec la générosité. D'ailleurs, même au niveau de nos prières, si quelqu'un prie et qu'il n'a pas cette générosité en lui, le Hari Akadosh, il dit qu'il fait plus de dégâts que de bien.
Attention, on ne parle pas de générosité, on parle de sincérité.
Mais c'est mon cours, je dois parler ce que je veux, non?
Tu peux être très généreux, mais pas...
Généreux. Généreux et sincère. Une générosité sincère, voilà. D'accord? J'adore. Moralité. Mais je sais, hein, c'est pareil. On est sur le même degré. Je te connais. T'inquiète pas. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret de ce temps. Toro Ratsouf. Maintenant, le mot Ratsouf, que veut-il dire?
Ratsouf.
Ratsouf. Il y a fait. Il y a Rispa, mais il y a aussi Reset, qui veut dire en hébreu continuité. Il y a fait, mais autre. Donc, normalement, ce que je dois paver comme étant Rispa doit être aussi continuel. C'est-à-dire, je ne dois pas être généreux une fois et après je fais la gueule. Je dois être dans une générosité continue. Et dans un amour continu. Et ça, c'est le bétamidage. Il y a une cohésion totale. Quelle entre ces degrés. Ça, c'est le secret. Quel?
Pourtant.
Pourtant.
Dans le bétamidage de Kayam,
on
n'avait pas substitué.
C'est pour ça qu'il a été détruit.
Et alors, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la difficulté est...
Pourtant, elle a été construite dans cette...
Il a fait. Et pourtant, il a été détruit. Ça veut dire que le libre arbitre existe toujours. Et plus l'élément en question est immense, plus ton libre arbitre va être aussi grand à la valeur de ce que tu as à côté de toi. Moralité, pourquoi tous les temples, on va dire d'une manière générale, ont été détruits? Parce qu'il y a eu rejet. On a greffé un élément de l'au-delà dans ce monde. Or, ce monde n'était pas au niveau, il a rejeté. Comme un morceau de chair qui n'est pas de son propre système. Alors, posez-moi la question, comment est-ce qu'on va faire dans le troisième temps? Eh bien, tant que le monde ne sera pas au niveau de ce temple, le temple ne pourra pas être construit.
Et alors?
Et après, alors on va pas attendre longtemps parce que vous êtes là et vous avez l'obligation de bosser. Il faut commencer à changer votre structure. Si vous voulez résister dans l'ancien monde et ne pas lâcher prise avec votre ancien degré de perception des choses, on est foutu. Il faut maintenant faire un switch. Pas seulement parce que vous êtes venu habiter ici. Venir habiter ici sous-entend changer de structure de vie.
Mais à toutes les générations, il y a eu un
rabbi
au Edenaroche qui a dit dans un cours, il faut...
Mais parce qu'il y a 30 personnes alors qu'il y a 2 millions dehors. C'est tout. C'est tout. Il faut plus de compréhension. Et une fois que je ne suis pas tout seul à dire, parce que maintenant, toi, tu as reçu le message. Combien de personnes tu connais? Eh bien, continue le travail. C'est ça le Inyan. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne une fois tous les 3 mois donner un cours. Ça, c'est trop facile. Et dans fantasie, ils reçoivent, il y a un spectacle. C'est pas ça, la Torah. La Torah, c'est pas donner des cours. Moi, j'en ai rien à faire, moi, des cours. C'est une structure de vie. Je dis à mes élèves, à tous mes élèves, vous pouvez l'entendre sur n'importe quel film, si vous ne changez pas quand vous venez à mes cours, ne revenez plus. Ça ne m'intéresse pas, moi, d'avoir des gens pour qu'on m'appelle Rav. J'en ai rien à faire des Inyanim de Kavod. Si tu ne changes pas la structure quand tu rentres dans mon cours, si tu ne sors pas différent, ne viens plus. D'ailleurs, c'était ça la structure du temple. Quand on rentre au temple, on n'a pas le droit de sortir par les mêmes escaliers. Pourquoi? Ça voudrait dire que tu es rentré, tu es sorti comme tu es rentré. Non. Tu es rentré X, tu sors Y. Tu es un homme. Ça, c'est la structure. Et donc, il y a une nouveauté en toi. Chaque jour, il y avait un grain de raisin en plus dans le temple. Il y avait une grappe de raisin en or, et chaque jour il y avait un raisin de plus, une graine de plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jour qui ne rajoute pas quelque chose de nouveau dans la structure humaine. Ça, c'est le Beit Hamikdash. Je résume tout ce que je viens de dire, et je termine. Akadosh Baruch Hu, ça passe vite, hein. Ça fait déjà 1h15 qu'on parle. Ça passe vite. Comme quoi, le temps est relatif. D'accord? Quand on s'ennuie, tu regardes l'heure, 8h15, 8h16, 8h17, on peut plus. Clap. Et quand ça passe vite, c'est que tu kiffes. Bon, bah, je dis ça comme un compliment. Alors, je résume. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Il a créé ce monde pour y résider. Pour y résider, il a créé une structure qui s'appelle le peuple d'Israël. Mais pour que cette structure peuple d'Israël apparaisse, il va falloir la sortir de parmi d'autres personnes dans ce monde. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Dieu va sortir un élément humain parmi tant d'autres. Une fois que cet élément humain est là, il a une première adresse. Maintenant, Dieu a le premier email. Son premier email. Il va envoyer le premier email à la première structure humaine de ce monde. Quel est le premier email de Dieu? Email veut dire avec Dieu. La Torah. Donc une fois que j'ai la structure humaine, je lui donne le message. Donc après la sortie d'Égypte, il y a le don de la Torah. Mais le don de la Torah étant ponctuel et limité dans le temps, il faut une structure qui continue. Et ça s'appelle le Mishkan et le Beit HaMikdash. Donc il y a 3 étapes, encore une fois le chiffre 3, la sortie d'Égypte, le cri humain, le don de la Torah et la structure capable de recevoir d'une manière continuelle la force divine.
Et ce Mishkan est aussi dans nous.
Parfait. Ça c'est la dernière étape. Ce Mishkan n'est pas seulement un édifice extérieur, il est à l'intérieur de notre corps. Et pour terminer, je vous donnerai juste un petit exemple. Dans le sein des saints, okay, il y a les chérubins avec le Aaron. Qu'est-ce que c'est le Aaron? L'armoire? Non. Ben oui, en hébreu, Aaron, il veut dire armoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Aaron?
Oui.
Une petite lumière. Or katan, Aaron. C'est tout. Aaron veut dire or katan. Une petite lumière. Pourquoi petite lumière, pas grande? Mais parce que si elle était grande, tout brûle. Donc Dieu se limite pour nous, pour qu'on puisse être dans la réception quelconque de quelque chose. D'où est-ce que cette lumière vient? Des deux chérubins. Entre les deux chérubins, il y a quelque chose qui apparaît. Ces deux chérubins sont les deux cerveaux. Cerveau droit, cerveau gauche. Ok? Ça veut dire que notre Saint des Saints est là. Tu sors du Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a? Dans le temple, qu'est-ce qu'il y a? Deux éléments. La menorah d'un côté, et la table de préposition. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Quel lechem apanim? Les pains de préposition. Donc vous avez la menorah et la table. Qu'est-ce que c'est que la menorah et la table? C'est l'esprit et la matière. Ben oui. Donc la menorah, c'est l'esprit, c'est la lumière, et la table, c'est ce que tu vas manger. Comment ils sont placés les deux, un en face de l'autre? C'est-à-dire que quand tu manges, tu dois faire face à la lumière. Ça veut dire que s'il y a une séparation entre ton monde d'esprit et ton monde de ventre, c'est un problème grave. Donc à chaque fois que tu manges, tu dois avoir la lumière en face de toi. C'est énorme ce qu'on est en train de dire là. Énorme. Et d'ailleurs, les sages nous disent dans la Gemara, Menorah Badarom, Menorah Badarom, Veshulchan Batsafon. C'est-à-dire la Menorah doit être au sud. Et la table doit être au nord. Qu'est-ce que c'est que ces charabia? Eh bien, le sud et le nord, c'est encore une fois deux structures de mon corps. Où est le sud? Ma main droite. Vous savez pourquoi? Parce que quand on regarde la terre d'Israël, il faut la regarder avec la mer derrière moi. Imaginez-vous que j'ai la mer derrière moi. Quand je me mets comme ça, j'ai la mer derrière, donc j'ai Jérusalem en face. Ma main droite est vers Be'er Sheva. Vous êtes d'accord? Et ma main gauche est vers Haïfa. Donc le sud, c'est ma main droite, qui représente la bonté, le partage. Ma main gauche représente la rigueur. Donc il va falloir que je fasse encore une fois l'équilibre. Donc il faut un troisième élément, entre la table et la menorah. Et quel est le troisième élément? Un tout petit peu en retrait, le misbeach hazahav, le misbeach haktoré. C'est-à-dire l'endroit où on mettait les enfants. Qu'est-ce que c'est Ketoret en hébreu? Ketoret veut dire attaché. Kshoret, c'est la même racine. Donc tu dois attacher en fait la menorah à la table. Et ça c'est le Mitzvah Ketoret. Ça se trouve en réalité dans notre esprit. Donc je dois avoir la table ici, je dois avoir la pensée, la menorah, qui sont en réalité les sept orifices de mes yeux. C'est pour ça qu'il y a sept branches dans la menorah du Bédarigdash. Deux branches, et la troisième centrale. Donc en réalité, ce sont toutes les branches par lesquelles j'appréhende la vie. Donc c'est la lumière qui m'arrive. Et la centralité, qui est la base centrale, c'est le Misbeach HaKetoret. Une fois que je sors de tout ça, je suis dans la Hazara, il y a déjà les korbanos, c'est-à-dire les sacrifices animaux. C'est-à-dire, c'est ma partie basse, tout mon côté animal. Donc vous voyez que le temple, c'est nous. Et je dois faire en sorte que tout mon côté animal, je l'élève vers l'esprit, vers le degré de l'entité au niveau de sa valeur la plus profonde. Élever la matière. Je vous ai donné juste une petite ouverture de la structure que nous devons développer dans notre vie. Voilà, ça va.